Vous écoutez, on lit pour vous.
Le commerce de proximité souffre, un texte de Christian Savard, paru le 10 avril 2024, dans la presse. Le commerce de proximité à échelle humaine souffre. Énormément. La cascade d'annonces, ces derniers mois, de faillites ou de fermetures de petites et moyennes épiceries de quartier et autres commerces emblématiques, est terrifiante pour le tissu commercial et les liens communautaires de nos villes et villages. Il ne s'agit de rien de moins qu'une catastrophe au ralenti pour les collectivités québécoises et leur population. De Rouyn-Noranda à Forestville, en passant par Antic et Saint-Sauveur, semaine après semaine, on voit s'éteindre de petits trésors de proximité. Les causes sont multiples. La difficulté à trouver de la relève, l'accélération de l'achat en ligne depuis la pandémie, les problèmes de main-d'œuvre, l'inflation, les taux d'intérêt élevés, la concurrence des grandes surfaces sont autant de facteurs qui transforment de plus en plus de villes, villages et quartiers en déserts commerciaux. Les conséquences de cette saignée sont profondes et se feront sentir pendant des décennies. Du côté des budgets municipaux, l'attrition commerciale tend à effriter l'assiette fiscale, comme l'a démontré une étude réalisée pour l'Union des municipalités du Québec. Cela amène une pression énorme sur l'impôt foncier résidentiel et le compte de taxes des citoyennes et citoyens. La fermeture des commerces de proximité place de nombreuses personnes dans une situation de dépendance aggravée. Lorsqu'on ne peut pas ou plus conduire, les commerces de quartier sont souvent les seuls accessibles. Alors qu'on souhaite favoriser un vieillissement actif chez soi, dans sa communauté, la perte de commerces et services est une très mauvaise nouvelle qui pourrait nous coûter fort cher, puisqu'il faudra compenser d'une manière ou d'une autre changement de lieu de vie ou service à domicile. Moins de commerces à proximité, ce sont aussi des déplacements plus longs. En ville, s'ensuivent une plus grande dépendance à la voiture et un budget de transport alourdi. Dans les milieux ruraux, une spirale de dévitalisation s'enclenche, chaque fermeture mettant à risque le tissu commercial restant. Partout, c'est plus de kilomètres, un bilan carbone aggravé, de l'énergie gaspillée. Les commerces de proximité attirent de nouveaux habitants. Ils incitent les touristes à rester plus longtemps. Ils encouragent les entreprises à s'installer. Devant des façades placardées, ça prend une âme de missionnaire pour s'investir dans un milieu de vie. En faire une obsession. Le commerce de proximité souffre, et c'est nous qui en pâtirons si nous n'y mettons pas maintenant les efforts nécessaires. Autant pour les gouvernements que pour les municipalités, soutenir le commerce de proximité doit devenir une obsession dans toutes les politiques et lors de chaque décision. On peut aider les commerces de proximité grâce à une fiscalité locale ajustée à cet objectif, comme le permettent les pouvoirs récemment alloués par le projet de loi 39. On peut aussi adopter un urbanisme commercial qui renforce les centralités et empêche la création de méga-surfaces commerciales aux abords du réseau routier. On peut également implanter des programmes de revitalisation, un soutien financier à l'animation, des politiques d'achat éco-responsables, des campagnes publicitaires, etc. Le gouvernement a plusieurs fois promis 470 millions de dollars pour les cœurs de villes et de villages. Voilà de quoi soutenir de nombreuses actions favorables au commerce de proximité. Avec à peine 50 millions annoncés lors du dernier budget, on reste toutefois loin du compte. Tout n'est pas perdu pour le commerce de proximité, mais il ne faut plus se voiler la face. Malgré toute la bonne volonté du milieu, malgré le réel attachement de la population pour ses rues principales, les difficultés sont trop grandes. Ça ne se réglera pas tout seul. Nous avons besoin du commerce de proximité, et c'est réciproque. Ça doit devenir une obsession collective de le soutenir. Il est là notre projet de société identitaire, communautaire, rassembleur, sobre en carbone et rentable. C'était « Le commerce de proximité souffre », un texte de Christian Savard, paru le 10 avril 2024 dans la presse.
Réhabiliter la modestie en pleine épidémie de narcissisme. Un texte de Louise Leduc paru le 14 avril 2024 dans la presse. Entrevue avec le psychiatre français Christophe André, qui s'est fait connaître par divers ouvrages sur la méditation et qui vient de publier chez Odile Jacob « S'estimer et s'oublier », un livre prônant la modestie à une époque où le narcissisme est devenu, selon lui, épidémique. S'estimer et s'oublier. Votre titre est-il une ode à l'humilité, une volonté de réhabiliter la modestie? Exactement. Je pense que l'humilité est une très bonne chose pour l'estime de soi. L'humilité, ce n'est pas de se rabaisser, mais c'est de ne plus être intéressé par les compétitions sociales. C'est comprendre que finalement, vouloir toujours être devant, être le meilleur, ça va bien pour certaines situations, lors d'une compétition sportive, par exemple. Mais la plupart du temps, être trop obsédé par la lumière et la performance, c'est épuisant et toxique. Le message, c'est de viser l'allègement de soi. Vous dites qu'il faut chercher davantage à être apprécié qu'admiré. Mais la société n'a-t-elle pas besoin de gens ambitieux, de personnes qui aspirent à diriger un pays, par exemple? Qu'il y ait des gens qui aient des ambitions, c'est très bien. Être narcissique et croire qu'on mérite d'être le chef peut même être un avantage dans la compétition pour la conquête du pouvoir. Le problème, c'est l'excès de narcissisme, comme chez Donald Trump. Je pense qu'il y a un autre modèle à inventer, avec des dirigeants peut-être moins narcissiques, un peu plus altruistes, un peu plus humbles, un peu plus modestes, comme Barack Obama. L'humilité, ça ne fait pas très 2024, à l'heure des égoportraits et des récits de vie aux couleurs de l'arc-en-ciel sur les réseaux sociaux. Vous parlez d'une épidémie de narcissisme. Pourquoi maintenant? Pendant longtemps, l'individu a dû se soumettre au groupe. À table, les enfants devaient se taire. Au travail, le patron, c'était le chef, on n'avait rien à dire. Le citoyen devait partir à la guerre quand son pays le lui demandait. C'était des sociétés très hiérarchiques, très autoritaires. À partir des années 1960, l'individu s'est rebellé et on a basculé dans l'extrême inverse. L'individu s'est arrogé tous les droits, s'est remis au centre de tout. Le mouvement de libération de l'individu contemporain s'est accompagné d'un excès de nombrilisme, de narcissisme. La dernière couche a été évidemment ajoutée par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont, ironiquement, le haut lieu du narcissisme et en même temps le meilleur moyen, quand on les fréquente, de se sentir minable. Le problème, c'est qu'il nous pousse à des comparaisons incessantes avec des gens qui mentent. Dans la vraie vie, quand on se compare à ses amis, à ses collègues, à ses voisins, en général, ça va. Quelqu'un autour de vous peut être beaucoup plus riche, avoir un conjoint très beau, mais vous savez, par exemple, qu'il a toujours mal au dos. C'est la vraie vie, et au jeu de la comparaison, pour nous, ce n'est pas une catastrophe. Sur les réseaux sociaux, seules les choses idéales sont montrées. C'est comme si vous vous comparez à des stars de cinéma. Et là, vous perdez. Vous soutenez que l'estime de soi est à son plus bas à l'adolescence, qu'elle augmente graduellement pour atteindre un maximum vers 40 ou 50 ans. Qu'est-ce qui rend les adolescents si vulnérables? Ils n'ont pas encore découvert leurs qualités, n'ont pas encore fait leurs preuves. Ils ne sont pas certains d'être appréciés par les autres. Ils sont en train de se chercher, avec en plus cette disgrâce physique relative. Chez certains, c'est la période de mésestime de soi, voire de détestation de soi. Comment, comme parents, comme enseignants, les aider dans cette période difficile? Les enfants, il leur faut d'abord de l'amour inconditionnel. Ils doivent savoir que leurs parents ne les abandonneront jamais, qu'ils les aimeront toujours. Mais ce qui est problématique, c'est l'approbation inconditionnelle qui les amène à penser que, quoi qu'ils fassent, leurs parents les approuveront. Que leurs mauvaises notes ne sont pas leur faute, que l'école n'a pas à les punir pour leurs bêtises. Ce que les psychologues d'enfants rappellent aussi, c'est que c'est très important d'encourager les enfants, de les féliciter, pas seulement pour leurs performances, mais aussi pour leurs efforts, pour leurs gestes d'altruisme. L'estime de soi, n'est-ce pas comme une vague, quelque chose qu'il faut rebâtir à chaque coup dur de la vie? L'estime de soi n'est pas complètement stable. Se sentir compétent, aimer, savoir que l'on compte pour un nombre suffisant de personnes, ça, c'est le carburant de l'estime de soi. Il faut aussi qu'on ait une petite batterie d'autonomie qui nous permette de survivre dans ces périodes où on se sent moins aimé, où on se sent un peu en échec, frustré de réussite ou d'affection. Ce qui nous garde à flot pendant les périodes difficiles, quoi. Un de mes collègues qui était prof de psychologie avait l'habitude, quand il parlait à ses étudiants de l'estime de soi, de sortir un billet de 10 $ de sa poche. « Combien vaut ce billet? » demandait-il à ses élèves. Tous criaient « 10 $ ». Puis il le froissait. « Combien vaut ce billet froissé maintenant? »« Toujours 10 $ », répondaient les étudiants. Puis il le piétinait avec ses chaussures. « Combien maintenant? » »« Toujours 10 $ », bien sûr. » C'est ce que l'on appelle l'estime de soi inconditionnelle. Ce petit rappel que, quoi qu'il nous arrive, il y a une partie de nous-mêmes qui reste digne d'être aimée, d'être appréciée et apte à réaliser des choses tout à fait estimables. Extrait. Un jour que je me décrivais comme ordinaire, mon interlocutrice sursauta et me récusa. « Mais non, tu n'es pas ordinaire. Personne n'est ordinaire. » Mais si, en tout cas, moi je me sens ordinaire, et je n'en tire ni honte ni gloire. Je ne suis pas quelqu'un de spectaculaire, de pittoresque, de chatoyant. Je fais de mon mieux mon métier d'humain, et de mon mieux toutes mes autres missions ici-bas. Père, époux, ami, médecin, auteur, inconnu de passage. Ordinaire, ça ne veut pas dire inférieur, ça veut dire humain. Qui est Christophe André? Né à Montpellier, en France, Christophe André a pratiqué la psychiatrie à Toulouse et à Paris, dans un service spécialisé dans la prévention des troubles anxieux et dépressifs. Il a été l'un des premiers en France à proposer la méditation à ses patients en psychothérapie. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers qui portent sur la méditation et sur le bien-être. C'était « Réhabiliter la modestie, en pleine épidémie de narcissisme », un texte de Louise Leduc paru le 14 avril 2024 dans La Presse.
Rebonjour la police. Un dossier de Philippe Teixeira-Lessard paru le 27 mai 2024 dans La Presse. Une recrue de 59 ans. Képi, uniforme, main droite levée. Daniel Dufour avait presque l'air d'une recrue comme les autres en prêtant serment pour devenir policier en octobre dernier. Mais avec ses 59 ans et ses cheveux poivre et sel, il aurait pu être le père de la plupart de ses nouveaux collègues. Et il avait déjà 34 ans de police au compteur. L'homme est l'un des 63 policiers réservistes réembauchés par le service de police de la ville de Montréal, SPVM, depuis la création de ce nouveau statut il y a un an. un moyen de pallier les difficultés importantes de recrutement de l'organisation et d'envoyer des renforts aux agents épuisés par les heures supplémentaires. Je ne pensais jamais avoir la chance de revenir dans la police, explique Daniel Dufour, dans une salle d'interrogatoire du centre opérationnel Ouest. Il y en a qui jouent au golf, il y en a qui vont à la pêche. Moi, je fais de la police et du golf. Le bureau grouille de vie avec des enquêteurs qui entrent et qui sortent, discutent à voix haute de leur dossier. Une photo de suspect a été rayée de ligne noire pour célébrer son emprisonnement. Une blague salace est affichée sur une feuille de papier qui pend du plafond. Une ambiance à 1000 lieues de la retraite paisible à laquelle Daniel Dufour aurait eu droit après une carrière bien remplie. Il occupe maintenant un rôle de mentor et de soutien à une équipe de 8 enquêteurs, dont 4 ont été promus d'un coup. « Je pense que j'avais plus d'expérience que les 8 additionnés », dit-il en riant. 59 ans, pour la police, c'est vieux. Des critères restrictifs. S'ils ne sont jamais officiellement chargés d'une enquête, les réservistes ont les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que les autres policiers du SPVM, explique la lieutenante Lynn Labelle, responsable du programme des réservistes. Ils sont qualifiés pour le tir et portent une arme de service à la ceinture. Dans une salle de réunion du quartier général, elle détaille les critères d'embauche actuels. Il faut avoir été policier au SPVM pendant 30 ans, avoir pris sa retraite depuis moins de 3 ans et être recommandé par ses anciens patrons. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu as été policier pendant 30 ans qu'on va te réengager comme réserviste, dit-elle. Il y a vraiment un processus qui est mis en place, plusieurs vérifications qui sont faites. Des réservistes font de l'aide à l'enquête, d'autres peuvent remplacer des brigadiers scolaires ou être déployés pour encadrer des événements festifs, pas les manifestations qui risquent de tourner à l'émeute. Certains accompagnent des victimes à la cour, libérant un policier ordinaire. Ils sont payés entre 60 et 64 $ l'heure en vertu de la convention collective conclue avec la fraternité. Le SPVM exige un minimum de 10 jours de disponibilité par année, mais la plupart des réservistes travaillent beaucoup plus souvent. Daniel Dufour, lui, fait 3 ou 4 jours par semaine. Il s'absente parfois durant de longues périodes pour voyager. J'ai voulu voir ce que c'était, la retraite, et j'ai savouré ça pendant 2 ans et demi, continue le policier. J'espérais ne pas être juste affecté à des tâches administratives. Je voulais être impliqué. Et j'ai été servi à souhait. Les besoins sont criants. Parce que le policier est plongé dans l'action. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2023, un coup de feu est tiré sur l'école juive Yeshiva Gedola dans Côte-des-Neiges. C'est la 3e journée de Daniel Dufour comme réserviste. Le policier saute dans la voiture avec sa collègue responsable de l'enquête. Les photos de la presse de ce jour-là les montrent arriver sur la scène de crime, masquée en raison d'une éclosion de COVID-19 dans l'équipe. « Mon rôle, dit Daniel Dufour, c'est de la préparer, de la diriger et de lui donner des conseils. C'est là que je me suis dit que j'avais pris la bonne décision, que j'allais pouvoir contribuer et vraiment apporter un soutien. » En février 2024, le policier a mené lui-même l'interrogatoire d'un suspect dans un dossier d'agression à l'arme à feu. J'ai été très chanceux, ça a fonctionné. En dedans d'1h40, j'avais eu tous les aveux, se souvient-il. Le patron du centre opérationnel Ouest, le commandant Denis Tessier, se réjouit justement de pouvoir lui confier des interrogatoires plus difficiles parce qu'il a un taux de succès qui est vraiment très, très élevé. C'est un expert en interrogatoire, ajoute-t-il. On a de la misère à aller chercher des policiers en ce moment pour l'embauche de manière générale, a-t-il dit. Les besoins sont criants. Quand Fadi Daguerre a eu le blues de la patrouille, l'étincelle qui a inspiré le programme de réservistes. Après s'être fait damer le pion pour le poste de chef du service de police de la ville de Montréal en 2016, le directeur adjoint, Fadi Daguerre, se cherche et pense à la retraite. Il appelle un ami, chef d'un petit service de police, se remémore-t-il aujourd'hui en entrevue téléphonique. « Est-ce que tu accepterais que je postule comme agent ou comme superviseur pour redevenir patrouilleur ?» lui demande-t-il. « Je veux boucler la boucle. Je veux finir ma carrière sur la route un an ou deux. » Son interlocuteur a éclaté de rire, rejetant le scénario comme une boutade. Mais l'idée est restée dans l'esprit de Fadi Daguerre alors qu'il réfléchissait à des solutions à la pénurie criante de policiers que traverse actuellement le SPVM. Profitant de négociations pour le renouvellement de la convention collective, c'est lui qui a proposé à la Fraternité des policiers et policières de Montréal de créer ce nouveau statut de policier réserviste. Le modèle existait déjà à la Gendarmerie royale du Canada. Je sais qu'il y en a plein qui veulent le faire. Je ne suis pas le seul à penser comme ça, assure le chef de police. Des personnes pour qui la police est une vocation. Fadi Daguerre brosse un portrait positif de la première année d'existence du programme. On est rendu à 62-63. Cette année, on veut se rendre à 75-76 réservistes. Ça fonctionne, assure le chef de police. On a beaucoup de demandes pour revenir. Des gens qui veulent servir à nouveau. Ils n'ont pas terminé. Des gens qui prennent leur retraite à 50 ans, 52 ans, très jeunes. Ramener de vieux policiers dans une organisation qu'on veut profondément changer, est-ce une bonne stratégie? La question est intéressante. Mais l'urgence est de soulager les policiers épuisés, dit-il. D'autant plus que les policiers qui désirent revenir comme réservistes font l'objet d'une sélection. L'autre souci, c'est la jeunesse des centaines de recrues qui, avec un peu de chance, viendront pourvoir les postes. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le rajeunissement des policiers et policières et le manque de mentorat, de coaching, dit Fadi Daguerre. Dans les 5 prochaines années, tout l'effectif de la patrouille va être renouvelé. On parle d'environ 2000 à 2500 recrues qui vont rentrer dans les 5 prochaines années. C'était Rebonjour la police, un dossier de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 27 mai 2024 dans La Presse.
Certains jeunes me vouvoient, ça me donne un coup de vieux. Un texte de Louise Leduc, paru le 31 mars 2024 dans La Presse. À l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Léonard, qui compte quelque 3200 élèves, une vingtaine de jeunes combattent l'envie de rester au lit et, tous les 9 jours, arrivent une heure avant le début des cours pour aider ceux qui ont des difficultés. Et à les écouter, ils en tirent beaucoup plus que leur billet de balle. Leur récompense officielle. Témoignage. Après le confinement, je m'étais promis de répondre aux demandes des élèves qui étaient nombreux à me dire qu'ils avaient besoin d'un endroit calme où étudier à l'école. Qu'à la maison, il y a souvent beaucoup de monde, trop de bruit. On a donc mis en place un programme d'aide aux devoirs entre élèves, ajoute Suzanne Capraro. Je suis arrivée d'Haïti à 6 ans. Je parlais très bien français, mais comme je n'avais pas le même accent que les autres, j'avais si peur d'être jugé que j'en bégayais, raconte Christa Faina Rejuste. Dire qu'aujourd'hui, certains jeunes que j'aide me vouvoient, ça me donne un coup de vieux. Quand je constate leur progrès, ça me fait plaisir. Ça me donne l'impression d'être une vraie prof qui serait allée à l'université pour faire ça. Moi, il y en a qui m'appellent « Madame », lance sa sœur jumelle, Christy Vaina Rejuste. Avant de venir aider ceux qui ont des difficultés, j'étais très timide et ça m'a amené à être plus ouverte. Et mes parents, qui sont des immigrants, ont été tellement fiers quand ils ont su que leur fille était maintenant celle qui aidait les autres à l'école. Les difficultés rencontrées par les élèves immigrants reviennent souvent au fil de la discussion. Les nouveaux, on doit leur dire qu'ici, ce n'est pas une école comme dans les films américains, qu'on n'est pas en danger, dit Christa, ses camarades approuvant et rigolant en pensant à tous les stéréotypes qu'ils entendent sur leur école. L'inclusion et le sentiment d'appartenance aussi sont des thèmes évoqués par le groupe. Avant, j'étais en sport-études, en soccer. Quand je suis sorti du programme, j'ai senti un vide. J'avais besoin de m'enraciner autrement à l'école, de m'y refaire ma place, d'être utile, témoigne Victor Chaubat-Dindegui. Ça fait du bien aux jeunes qu'on aide aussi, de savoir qu'ils ne sont pas seuls à avoir du mal avec certaines notions, que l'année dernière, toute ma classe a eu de la misère avec le champ magnétique. Les jeunes lâchent un cri à l'unisson. Manifestement, le champ magnétique est un très mauvais moment à passer. Certaines matières donnent plus de fil à retordre aux élèves immigrants que d'autres, comme l'explique Rim Safsaf au premier plan. Je suis arrivé d'Algérie en troisième secondaire. L'an dernier, j'ai fait de l'aide en mathématiques et maintenant, je donne un coup de main en histoire. Parce que quand on arrive d'un autre pays, c'est vraiment dans cette matière qu'on a de la difficulté. En quatrième secondaire, les élèves ont un examen du ministère qui porte sur l'histoire du Québec et du Canada. Malak Miloud peut aussi en témoigner. En plus du programme d'aide aux devoirs, je me suis aussi porté volontaire pour accueillir les nouveaux arrivants, leur faire visiter l'école, dit-elle. Et c'est ce que je leur dis toujours. En mathématiques, ça ira, mais en histoire, ils doivent travailler fort. Depuis septembre, j'ai accueilli 16 nouveaux élèves. 16! Ça m'a étonné que j'en ai accompagné autant. Pour les parents, quand ils viennent d'immigrer, c'est rassurant de savoir que leurs enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes à l'école, qu'ils sont même accompagnés par des jeunes qui sont originaires du même pays qu'eux, affirme l'enseignante Nabila Amish. Oui, confirme Malak, les parents sont inquiets et ils transmettent souvent leur peur à leurs enfants. En parlant avec les nouveaux élèves, je détruis souvent les préjugés que les jeunes ont sur le Canada. Oui, l'école Antoine de Saint-Exupéry, c'est une très grosse école. Bien sûr, tout n'y est pas parfait. Nous ne mettons pas de lunettes roses, admet la directrice de l'école Geneviève Dondurand. Mais il y a ici un sentiment d'appartenance hors du commun, y compris des enseignants. Près d'une dizaine d'entre eux sont même d'anciens élèves qui ont l'école tatouée sur le cœur. Les jeunes qui ont reçu de l'aide ne l'oublient pas et ils tiennent à redonner au suivant. C'était « Certains jeunes me vouvoient, ça me donne un coup de vieux », un texte de Louise Leduc, paru le 31 mars 2024 dans la presse.